RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Paul Lonsin-Spinelli.
Avec à la une des besoins humanitaires qui coûtent de plus en plus cher en RDC. Hier, les responsables d'ONG et bailleurs de fonds se réunissaient à Kinshasa pour réclamer quelque 2,5 milliards de dollars d'apport, notamment à cause de la crise sécuritaire dans l'est du pays, mais aussi de la propagation de plusieurs maladies. Hier, 11 personnes ont été tuées, au moins une soixantaine d'autres blessées par deux explosions à Bukavu, dans le sud Kivu. Une foule s'était réunie pour assister à un meeting de l'AFC M23. Les responsables présents venaient de quitter les lieux. Kinshasa, comme le groupe armé soutenu par le Rwanda, se rejette la faute. Ce 28 février 2025 marque les un an de la mort de Yaya Dillo au Tchad. Le leader du Parti Socialiste Sans Frontières avait péri dans l'attaque du siège de son parti par l'armée. Ses partisans dénoncent toujours un assassinat. Les autorités tchadiennes expliquent avoir répliqué, accusant Yaya Dillo de s'en être pris aux institutions. Et puis on s'intéressera au bilan de la prolongation de la COP16 biodiversité pour les pays africains. Le sommet vient de s'achever à Rome, en Italie. Des crises multiples qui alourdissent la facture des besoins humanitaires en République démocratique du Congo. Réunis hier à Kinshasa, des représentants d'ONG et des bailleurs de fonds ont estimé à 2,5 milliards de dollars le coût de leur plan de réponse humanitaire dans le pays pour cette année. Des besoins qui augmentent, et ce alors que les fonds diminuent sur le plan international, Coralie Pierret.
Les discours se succèdent à la tribune et tous s'accordent sur la gravité de la crise. Les nouvelles réalités, la prise de Goma et de Bukavu par l'AFC M23, un groupe soutenu par le Rwanda, complexifie le travail des humanitaires dans une zone déjà extrêmement fragile. Luc Lamprière est le directeur du Forum des ONG internationales en RDC.
On est confronté à une multitude de crises au même moment. Les humanitaires sont face à des dilemmes permanents et impossibles. Comment soigner des blessés quand les hôpitaux manquent de tout? Comment prévenir une catastrophe sanitaire alors que le choléra, la rougeole et le Mpox continuent de progresser? Comment protéger les survivantes de violences basées sur le genre, les personnes déplacées qui vivent dans la peur?
Comment également répondre à ces besoins quand les financements manquent? Les annonces de coupes budgétaires pleuvent depuis le gel des aides américaines. Joachim Waverka est l'ambassadeur de Suède en RDC et représentant des bailleurs de fonds.
Je pense que nous nous trouvons dans une situation très très grave. En même temps, c'est un conflit assez oublié quand même. Bien évidemment, avec plus de des attentions sur ces questions, ça pourrait prendre une opportunité pour des bailleurs de fonds d'augmenter leur engagement.
Peu probable que les humanitaires arrivent à mobiliser cette année les 2,5 milliards de dollars demandés. L'année dernière, 1,3 milliard de dollars avaient été récoltés, un financement record grâce notamment à la contribution des États-Unis qui avait couvert 70% du plan de réponse humanitaire. Coralie Pierret, Kinshasa, RFI.
Et hier, deux explosions ont causé la mort d'au moins 11 personnes et blessé une soixantaine d'autres à Bukavu, la capitale provinciale du sud Kivu. Cela s'est produit juste après un meeting de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Les responsables présents à ce rassemblement venaient de repartir. Le gouvernement congolais et le groupe armé se rejettent l'accusation. Le M23 soutenu par Kigali, qui s'était emparé quelques jours avant Bukavu de Goma. Le gouvernement congolais estime aujourd'hui que les affrontements qui ont précédé la prise de la capitale du Nord Kivu et les violences qui ont suivi auraient fait plus de 8500 morts. Et ce bilan, eh bien, il reste en deçà de la réalité, selon Samuel Roger Kamba, ministre congolais de la Santé.
Nous recevons en moyenne encore plus ou moins 10 tués par jour. Donc la situation ne s'est pas améliorée. Au total, ceux qui sont morts dans nos centres de soins, nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Nous avons à peu près une trentaine encore de décès dans nos morgues, parce que les autres ont pu être enterrés. Il faut savoir que nos équipes travaillent dans des conditions très difficiles, où leurs téléphones sont surveillés, et malheureusement, donc, comme j'ai dit, le carnage continue. En termes de blessés, nous sommes à 5587 blessés. Donc, ça ne fait qu'augmenter au jour le jour. Il y a un hôpital pour lequel on n'a pas beaucoup d'éléments, c'est l'hôpital militaire, parce que nous avons du mal à accéder. Il y a la zone de santé de Nyiragongo, par exemple, où nous avons beaucoup de mal, étant donné des problèmes sécuritaires, à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. C'est pour ça que j'insiste que les chiffres que nous donnons sont réels, mais sont en deçà, sont sous-estimés par rapport à la réalité.
Samuel Roger Kamba. Il avait été tué il y a un an, jour pour jour, lors de l'assaut de l'armée tchadienne contre le siège de son parti. Yahya Dilo était le président du PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières. Le pouvoir tchadien l'accusait d'avoir mené une attaque contre les locaux des services de renseignement la veille de sa mort. Une enquête avait été lancée ensuite pour tenter de connaître les causes de son décès. Pour les proches de l'opposant et cousin du président Mahamat Debi Itno, il s'agit d'un assassinat. Les militants du PSF qui exigent également la libération du secrétaire général du parti, Gam Robert, arrêté depuis bientôt 6 mois. Écoutez Alifa Youssouf Mahamat, il est le coordonnateur général du parti PSF de la diaspora.
Yahya Dilo Diroubeti s'est levé contre l'oppression et l'injustice même au péril de sa vie. Puisque son engagement politique fondé sur une quête inlassable de liberté, d'égalité, de justice et d'équité, lui a valu d'être la cible d'un pouvoir militaire qui refuse toute contestation. Concernant l'enquête annoncée par le gouvernement militaire sur son assassinat, à ce jour, reste sans suite. C'est une déclaration trompeuse pour endormir la conscience de ceux qui se battent pour la justice de cette figure emblématique. Mais toutefois, le Parti Socialiste Sans Frontières a porté plainte devant la Cour pénale internationale. Concernant l'enlèvement de notre camarade le secrétaire général Gam Robert, incarcéré injustement dans les geôles des services des renseignements, reste flou. Ce qui est vraiment scandaleux et inadmissible, les pouvoirs militaires refusent toute explication officielle. Donc, nous exigeons la libération de Gam Robert avec des enquêtes crédibles et transparentes.
Propos recueillis par Olivier Monodji. Du côté du gouvernement tchadien, son porte-parole, Gassim Cherif Mahamat, dit vouloir laisser la justice faire son travail et assure qu'une commission d'enquête se met en place. La mort de ce leader politique est regrettable, selon le ministre, qui souligne néanmoins que les autorités n'ont fait que répliquer lorsqu'elles ont été attaquées.
C'était une situation déplorable qu'on en arrive à la mort d'un chef de parti politique. Mais il faut aussi préciser que c'était dans un contexte où il ne se comportait pas comme un chef de parti politique lambda. Il s'est attaqué aux institutions de l'État et l'État n'a fait que répliquer pour rétablir l'ordre constitutionnel, l'ordre institutionnel. Vous vous souvenez, il avait attaqué le siège de l'Agence nationale de sécurité, l'ANS. Et ça, c'est la première séquence qui a conduit à la mort de Yahya Dilo. Concernant la justice, le gouvernement mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour que la justice se fasse dans de bonnes conditions, mais pour le moment, la justice elle est saisie par les parties prenantes, c'est-à-dire le parti politique du défunt Yahya Dilo. Je comprends que les familles peuvent s'impatienter, la justice va faire son travail.
Une commission d'enquête pourrait être mise en place ?
Tout à fait, une commission d'enquête va se mettre en place, c'est au niveau du ministère de la Justice, elle va se mettre en place avec les différents acteurs, et ça aussi c'est quelque chose qui est déjà en cours.
Gassim Cherif Mahamat. Jouer les prolongations aura permis de rattraper le coup. Les délégués de plus de 150 pays membres de la COP16 biodiversité s'étaient englués dans des désaccords en novembre dernier à Cali, en Colombie. Il aura donc fallu ces 3 jours d'un sommet bis qui vient de se terminer à Rome pour valider une feuille de route à l'horizon 2030. L'objectif, c'est de collecter des fonds pour protéger la nature. Des modalités pour protéger le vivant ont aussi été adoptées et seront évaluées lors de la prochaine COP qui se déroulera l'an prochain. Les pays africains, eux aussi, ont dû se plier aux règles du consensus, Lucille Jambert.
Les pays africains voulaient obtenir dès aujourd'hui la création d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité et sous l'autorité de la COP. Ils ont dû céder en partie, tout comme ont dû céder les pays développés qui, eux, ne voulaient pas en entendre parler. La solution médiane adoptée, un processus de travail de 5 ans, va évaluer les instruments financiers existants et établir les améliorations souhaitables pour que les pays membres de la Convention sur la diversité biologique décident d'ici 2030 si le plus efficace est un nouveau fonds ou bien l'amélioration d'un ancien. Ousseynou Kassé, président du groupe Afrique.
Nous avons montré ici que c'est le multilatéralisme qui a triomphé. Les différentes parties ont fait beaucoup de concessions pour aller vers un compromis. Nous aurons un mécanisme qui sera dédié exclusivement à la biodiversité, ce qui n'a jamais existé depuis la mise en place de cette convention sur la biodiversité. Et pour nous, c'est un motif de satisfaction. C'est une étape, mais il reste aussi d'autres étapes pour aller vers la mobilisation de plus de ressources pour lutter contre la perte de biodiversité.
Alors que l'aide au développement stagne, voire se réduit. Les pays comptent aller chercher des fonds aussi auprès du secteur privé. privés pour tenter d'atteindre l'objectif des 200 milliards de dollars mobilisés chaque année pour la sauvegarde de la nature. Lucille Gimbert, Rome, RFI.
Le gouvernement comorien veut épargner à sa population un ramadan trop coûteux cette année. Un ensemble de mesures ont été annoncées en ce sens hier en conférence de presse. Tous les consommateurs ne s'en réjouissent pas pleinement, mais le but affiché des autorités alors que la période sainte approche, c'est de garantir un approvisionnement suffisant et des prix abordables. Abdallah Mzembaba.
Face à la hausse des prix, les autorités tentent d'apaiser les inquiétudes. Le secrétaire général du gouvernement, Nour El Fattah Azali, a détaillé un plan d'action en partenariat avec la Chambre de commerce. Parmi les mesures annoncées, un fonds de garantie de 6 milliards de francs comoriens pour sécuriser l'importation des produits de première nécessité et un assouplissement des obligations fiscales pour les opérateurs économiques.
On espère qu'avec 6 milliards, il y aura une abondance de produits dans le marché pour s'assurer qu'il y ait une grande quantité de ces produits pour qu'on sache qu'il y a assez de compétition et que ça puisse au final affecter le prix.
Autre priorité, l'électricité. 10 nouveaux groupes électrogènes doivent être branchés dès aujourd'hui pour atteindre une couverture de plus de 90% du territoire. Mais ces mesures laissent sceptiques la Fédération comorienne des consommateurs. Son juriste, Maître Ahmed Ali Abdallah, avocat au barreau de Moroni, regrette un manque de concertation et doute de l'impact réel sur les ménages.
La première réaction de la Fédération comorienne des consommateurs, c'est la grosse déception qui nous habite. La Fédération n'est pas là pour défendre les consommateurs. Elle est là pour défendre les intérêts des consommateurs. C'est une position très importante. Et là, ils sont victimes des prix exorbitants dont le service des prix n'a aucun contrôle.
Les autorités promettent, elles, un suivi rigoureux et assurent que ces ajustements ne seront pas limités au seul mois de Ramadan. Abdallah Mzembaba Mourouni, RFI.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité africaine dans un peu plus de trois quarts d'heure. Pour l'heure, c'est Julien Coquel-Rouhem, RFI Matin.